Un sol majeur.
Artiste multimédia qui sait tout faire de ses mains. La coiffure, la couture, le bricolage, le repassage, je sais pas, mais les massages peut-être. Oui,
tout à fait. Ouais.
Je vous achète après l'émission. L'homme parfait s'appelle Barmak Akram. Afghan sur les papiers, artiste dans la tête, se touche à tout, maîtrise autant les arts visuels que la musique. Bon, alors on disait rapidement que vous étiez le vilain petit canard d'une famille qui aurait préféré que vous fassiez autre chose que de la musique, hein, des études sérieuses.
Oui, tout à fait, comme mon père a fait lui-même une école d'ingénieur, mon grand frère aussi, et mes autres frères, c'est la médecine, l'économie, etc. Moi, depuis mon enfance, je voulais faire de la musique et mon père m'interdisait parce que c'est pas très bien vu en Afghanistan. Et puis, une fois arrivé en France, à l'âge de 14 ans, j'étais un peu débarrassé, finalement, du poids des parents qui m'empêchaient de faire de la musique. Et très rapidement, j'ai fait quelques économies en travaillant l'été. Et j'ai acheté mon premier clavier et j'ai commencé à faire de la musique pour moi, comme
ça. Est-ce que ça a été un peu le choc des cultures et des civilisations en arrivant à Paris, après Kaboul ?
Oui, alors déjà aussi, il fallait que j'apprenne la langue française. Je ne parlais pas et j'ai commencé donc à aller à l'Alliance française pour apprendre le français, puis ensuite au lycée. Aussi à m'intégrer, pas seulement pour la langue, mais aussi tous les codes culturels.
Qu'est-ce qui a été le plus dur, hein?
À propos du chanteur qu'on a écouté au début de l'émission, en arrivant ici, à l'époque, en plus, c'était vraiment... il était très connu et moi, j'ai fait écouter ses chansons à mes amis.
Donc, Ahmed Zahir.
Ahmed Zahir. Mmh. Et les gens, non, ça leur a pas plu. Parce que autant en Afghanistan c'était une star incontournable, mais c'était une musique qui plaisait pas du tout aux jeunes Français de la seconde. Et du coup, eux ils me faisaient écouter en échange. À l'époque c'était la mode de téléphone qui était très connue et moi je comprenais pas très bien non plus. Et par contre, j'ai eu la chance d'écouter de la bonne musique française avec mon frère qui avait un bon goût pour Gainsbourg, Brel, Brassens.
Ce sont les vrais premiers Français que vous rencontrez sans difficulté finalement, juste en écoutant la radio.
Exactement, je me souviens de la première semaine que j'ai passée en France, j'ai écouté en boucle un vinyle, parce qu'à Kaboul on n'avait pas de vinyle, et là j'avais à ma disposition un vinyle et j'apprenais une chanson de Joe Dassin. Sans comprendre vraiment, mais surtout qu'elle était très simple, c'était « laisse-moi dormir jusqu'à plus de midi
». Vous vous êtes attaqué à plus dur, cela dit, Barmak Akram. Vous teniez à écouter, par exemple, ces gens-là, Jack Brel.
Oui, cette chanson était un peu une sorte de pièce de théâtre. Pour moi, je ne comprenais pas, mais comme... il articule très bien, je pouvais vraiment reproduire les sons sans comprendre le texte.
Et puis c'est une chanson sur le racisme.
Et petit
presque,
à petit, oui, j'ai compris que en fait son désarroi, c'était qu'il n'était pas accepté par une famille parce qu'il chez ces gens-là ils comptent ou ils boivent. Et moi je me sentais un peu comme ça rejeté.
Jacques Brel en sol majeur.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas.
Jacques Brel, qu'on va zapper parce que tout le monde connaît, parce que nous avons un invité en sol majeur qu'il faut entendre, Barmak Akram, diplômé de la FEMIS, et c'est en France qu'il réalise son rêve afghan.
Quel est le papier le plus précieux dont vous êtes en possession?
Est-ce que ce petit papier qu'on appelle carte d'identité, c'est quelque chose de précieux pour vous, Barmak?
Oui, c'est effectivement quelque chose de nécessaire, notamment pour voyager. Sinon, on se trouve un peu coincé. Et puis moi, j'ai une carte d'identité qui, pendant des années... me rappeler que j'étais un réfugié politique et j'ai pas un passeport, donc j'avais un titre de voyage, c'est-à-dire que dessus il y a marqué peut voyager partout dans le monde sauf en Afghanistan. Du coup j'avais un passeport mais pas pour mon pays. Et donc c'est un peu ça l'exil, finalement c'est l'impossibilité de retourner de là où on vient.
Mais vous avez perdu ce statut de réfugié politique.
Oui, depuis deux ans, trois ans, comme je voyage en Afghanistan et que j'ai fait mon film, donc j'étais convoqué par l'OFPRA.
Oui, bon. L'Office français de protection des rapatriés et apatrides.
Voilà, où ils m'ont fait comprendre que soit c'est moi qui mettais fin à mon statut de réfugié politique, ou alors sinon ce serait eux qui seraient dans l'obligation de le faire.
Donc vous êtes devenu afghan, mais vous regrettez un peu de ne plus être un réfugié politique.
Oui, oui, moi j'aimais bien, parce qu'en fait c'est presque l'équivalent de la situation d'un apatride. Quelqu'un qui ne vote pas, par exemple. Pendant toutes ces années, moi, j'avais pas le droit de voter. Et finalement, maintenant, j'ai presque pas d'engagement politique. Ça m'a permis d'être apolitique. Et j'aimais bien
donc là,
ce côté...
Donc là, vous n'avez plus d'excuses pour être apolitique, c'est ça?
Maintenant, oui. Je retrouve mon statut d'Afghan et j'ai fait la demande de la naturalisation française aussi. Mais je vais être obligé de voter. C'était aussi...
Vous n'avez pas voté aux dernières élections en Afghanistan?
Non, j'ai pas voté, non. Et aussi...
Vous savoir pourquoi?
C'est-à-dire qu'en fait, je me trouvais en plus à Kaboul à ce moment-là et la situation n'était pas vraiment très claire et ces votes, pour moi, c'est un peu comme un bac blanc en fait. On essaye d'apprendre à voter à un peuple où en fait les gens n'ont pas d'identité. Vous imaginez les cartes de vote pour des gens qui n'ont pas de carte d'identité, quoi. Alors on importe un peu un système de vote et on essaye d'apprendre. Donc pour moi, c'est un bac blanc et quand on passera le vrai bac, je voterai.
Pas d'avancée démocratique, même si on a reconnu effectivement qu'il y avait eu des fraudes, mais...
énormément.
Il y avait combien de partis d'opposition qui étaient présents, ça...
Une dizaine. Et c'est même pas des partis, justement, c'est des personnes pour le moment. Donc,
Vous seriez Hamid Karzai. Qu'est-ce que vous feriez? La première chose que vous feriez pour l'Afghanistan en tant que président, ce serait quoi? C'est une colle, ça.
Ah oui, non, mais pas du tout. Pour moi, je serais vraiment ravi d'être Hamid Karzai. Je m'occuperais surtout des enfants. Vraiment, des enfants dans la rue, ça me tourmente à chaque fois que...
Les enfants, donc. Des écoles?
Des écoles, oui, bien sûr, mais aussi des moyens pour les enfants, quoi. Ils n'ont pas à manger.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce tableau, c'est que j'avais fait une expérience d'éclairage. C'est-à-dire que, au lieu de peindre à la lumière du nord, du jour et du nord, j'avais décidé de faire ça à la lumière du gaz, qui est une lumière verte, verdâtre, et qui, quand on fait une chose à la lumière du gaz et qu'on regarde le lendemain, au jour, ça change complètement, ça grise tout, et ça fait tomber tous les tons. Ce qui m'intéressait comme expérience, ça a été très bien réussi.
La voix de l'inventeur des ready-made, Marcel Duchamp, que vous vouliez entendre, Barmak Akram.
Oui, c'est pour moi un vrai maître spirituel, presque un mystique, un soufi, je pourrais même dire, parce que... enfin, c'est mon interprétation, bien entendu. Je crois qu'il rigolerait bien s'il était vivant. Et puis, il serait quand même assez étonné qu'un Afghan puisse être aussi fan de lui. Et aussi...
Mais pas du tout, il n'avait pas du tout de cliché dans la tête, cet homme-là.
Oui, mais c'est inattendu, en tout cas.
C'est sûr.
C'est que quand j'étais au Beaux-Arts, je cherchais une manière de me positionner dans l'art moderne qui soit propre à moi et dans son côté iconoclaste, dans son côté révolutionnaire qui change toutes les règles. Et c'est ce dont j'avais envie pour le jeune révolté que je pouvais être
un révolté dadaïste, donc, puisque vous inscrivez dans la lignée de Duchamp, vous avez réalisé des vidéotos, c'est un nom que vous avez inventé, je suppose, oui. Et puis vous êtes l'inventeur du phytomorphisme, c'est-à-dire
Donc le travail sur lequel j'ai abouti au bout de quelques années de recherche après les Beaux-Arts, c'est un travail que j'appelle phytomorphisme, c'est un mot que j'ai inventé. Alors vous connaissez l'anthropomorphisme, où il s'agit de voir la figure humaine dans des plantes ou dans les fleurs ou n'importe quoi, dans les paysages. Là c'est l'inverse en fait, c'est de voir dans l'homme les plantes, dans l'homme le végétal. Qui est comme si, en fait, pour blaguer, souvent je dis Darwin disait que l'homme descend du singe, et moi je dis que le singe descend de l'arbre.
Et vous, vous descendez de quelle plante alors?
Moi, ça doit être un banyan, je crois. comme...
D'accord. D'où votre surnom Duchambé?
Oui, Duchambé, ouais, j'ai fait un jeu de mots avec Duchambé en Tadjikistan. Et Duchambé, donc c'est une sorte de clin d'œil.
Il faut arrêter de fumer un petit peu.
Hein. En tant que Dada Cool de Kaboul.
L'enfant de Kaboul, en revanche, n'est pas un film dadaïste. Je sais que vous aimez beaucoup Godard, c'est pas non plus un film Nouvelle Vague.
Non, c'est pas un film Nouvelle Vague, mais en quelque sorte, c'est le mouvement qui a précédé la Nouvelle Vague, c'était quand même le néo-réalisme italien. Et mon film s'inscrit quand même dans cette tendance du cinéma avec peu de moyens, la caméra à l'épaule. Donc il y a aussi cet aspect improvisation qu'il y a dans la Nouvelle Vague.
Alors il y a une chanson qui attend sur le pick-up dans sol majeur qui est intitulée Dada Cool de Kaboul, que vous avez entièrement conçue et qui est un clin d'œil à une exposition qui a eu lieu en 2005 à Paris qui s'appelait Dada, donc présentation de ce petit concept.
Oui, c'était en fait à l'occasion de l'exposition Dada à Beaubourg. J'ai été invité pour projeter mes films et aussi faire un concert où j'ai chanté donc le Dada Cool de Kaboul. Donc, que vous
Mais pourquoi alors? Qu'est-ce que c'est que cette idée? D'abord, qu'est-ce que vous faites dans un musée? Vous n'avez rien à y faire. C'est tuer l'esprit même du dadaïsme, ça, non?
Si on va vraiment très loin dans ce sens-là, oui, le musée à l'extérieur, ça c'est beaucoup plus tard, dans les années 50, où on a sorti l'art du musée. Mais peu importe le lieu de l'exposition, c'est surtout l'esprit dada qui m'habite.
On vous écoute, Barmak Akram, le Dada Cool de Kaboul, en sol majeur sur RFI.
Dada Cool, Dada Cool, je suis le seul Dada Cool de Kaboul, le seul unique Dada Cool, Dada Cool, le seul unique Dada, Dada, Dada Cool. Sur la route de soi, à la recherche de soi, j'avançais de moi en moi, de soi en soi. J'ai enfin trouvé mon pseudonyme, mon nom d'artiste anonyme. Alors que je m'appelle Barmak Akram, pour être discret, sans changer d'âme. Eh oui, je m'appelle, eh oui, Duchambé, eh oui, je me suis, eh oui, abrégé, eh oui, je me suis, eh oui, francisé, eh oui, je me suis, eh oui, intégré, eh oui, je suis le seul, eh oui, l'unique, Dada Cool de Kaboul, je suis le seul, Dada Cool de Kaboul, je suis le seul, Dada Cool. Dada Cool, Dada Cool de Kaboul. Sur la route de soi, à la recherche de soi, j'avançais de moi en moi, de soi en soi.
Barmak Akram, le Dada Cool de Kaboul, un peu maboule, un peu artiste, ex-réfugié politique redevenu afghan, installé en France et dans le fauteuil dans le sol majeur.
Est-ce qu'avant de manger, vous bénissez la nourriture?
Il m'arrive en tout cas d'avoir beaucoup de respect pour la nourriture. Et ça vient de ma culture afghane, par exemple, un bout de pain qui tombe par terre. Depuis qu'on est petit, on nous apprend qu'il faut le ramasser, l'embrasser et le remettre quelque part. Avoir du respect pour la nourriture. Plus j'ai vraiment du respect pour la nourriture sans que ce soit pour autant religieux et faire des prières.
D'accord. Sinon, vous êtes un grand cuisinier par nostalgie.
Oui, j'ai commencé à faire la cuisine parce que dès l'âge de 14 ans, je me trouvais seul, donc sans mes parents. Et au bout d'un moment, une fois que j'ai mangé des œufs pendant 6 mois, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai commencé à refaire les plats que j'avais mangés. Et puis quand je savais pas comment ça se préparait, j'écrivais dans des lettres à ma mère en disant comment tu prépares le palao par exemple, le khichdi qulut ou le halva. Et puis elle me, dans la lettre d'après, elle me répondait. Et petit à petit aussi, par ma propre curiosité, j'ai commencé à faire des plats, des mélanges que je fais. La cuisine que je fais, c'est pas vraiment de la cuisine afghane, mais c'est vraiment une cuisine métissée comme ma musique.
Quelle est votre ville de cœur?
Ma ville de ville de cœur, je crois que c'est Paris et Kaboul. Je me sens vraiment chez moi. J'ai grandi dans les rues de Paris, le quartier latin, les Beaux-Arts, le lycée Fénelon. Voilà, c'est aussi là où j'ai rencontré tant d'histoires d'amour.
Aha. Vous avez dû laisser plein d'histoires d'amour derrière vous aussi, Barmak Akram. C'est très compliqué, votre vie amoureuse. J'en suis sûre, vous êtes à cheval entre plusieurs cœurs. En réalisant en tout cas votre film L'Enfant de Kaboul, vous avez écrit la musique et enregistré les sons de la ville. Et ça donne ça.
Bonjour.
Bonjour.
Salam Khalidja.
Ça, c'est un extrait du film où le chauffeur de taxi va dans un chaikhana, qui est l'équivalent d'un café, et où ils écoutent vraiment de la musique populaire.
Ces petites gens qui font Kaboul et que vous avez filmé, on leur sent une force et une rage de vivre qui se traduit comment ?
C'est qu'en fait, après tant d'années de terribles souffrances, de pessimisme, c'est qu'il y a maintenant quand même une note d'espoir. Déjà, on commence à revivre en Afghanistan. Il y a la liberté de l'expression qui est revenue, ce qui est absolument incroyable. Dernièrement, j'ai fait un film pour Arte qui s'appelle « Toutes les télévisions du monde ». Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'à Kaboul, maintenant, il y a plus de 14 chaînes de télé et qu'on a une vraie liberté d'expression. On peut vraiment se moquer du président.
Ah oui.
Oui, d'ailleurs,
sans finir dans une geôle. Non.
Oui, d'ailleurs, je vais me moquer de lui.
Allez-y, pour voir. Vous ne prenez pas beaucoup de risques, hein, vous êtes quand même très loin là, de Kaboul. Mais bon, allez-y.
Non, c'était une
plaisante. Ah, c'était une boutade. Moi, je vous prends au mot, vous savez. En tout cas, cette terre que vous avez quittée donc il y a très longtemps et où on ne vous imagine pas vraiment y retourner pour y vivre complètement, ça reste une terre d'inspiration. C'est-à-dire que dès que vous écrivez, notamment pour faire du cinéma, c'est sur l'Afghanistan.
Ça, c'était en fait presque la raison pour laquelle j'ai fait la FEMIS. C'est que j'ai commencé à faire de la peinture en me disant il n'y a pas de peintre afghan, il n'y a pas d'artiste afghan, il faut que je sois le premier artiste peintre. Et du coup, de la même manière, le cinéma, il n'y a jamais eu vraiment un cinéma. Il y a un peu de passé dans le cinéma, mais j'avais envie de faire du cinéma afghan, quelque chose qui soit vraiment en relation avec la culture afghane. Et de la même manière que pour les langues étrangères, par exemple, une poésie en persan, c'est pas la même chose qu'en français. Je pense que le cinéma afghan peut donner vraiment un nouveau souffle pour le cinéma. Certains disent que le cinéma est mort. Moi, je dis qu'il y a plein de pays où c'est pas encore né.
Mm-hmm. Et j'imagine que c'est une expérience surréaliste de tourner un film à Kaboul. Vous avez mis combien de temps pour le faire et dans quelles conditions ?
C'était beaucoup de préparation, 2 ans de travail pour le scénario et la production, et seulement 5 semaines de tournage en très peu de temps. Donc c'était un peu un bricolage avec très peu de moyens, mais en même temps, je crois qu'on voit des scènes vraiment réelles, on voit la vie, et en ça, le film est un peu un semi-documentaire parce que plein de choses ne sont pas mises en scène, mais j'ai tourné dans la ville même. C'est pour ça que c'est un vrai néo-réalisme, ce qui n'est plus possible de faire en France, parce que les droits d'auteur, les droits à l'image, les gens, les passants, ne vous laisseraient jamais projeter le film.
Bon, un film fait avec plein de bakchiches en sous-main, c'est évident. On vous écoutait tout à l'heure dans Dada Cool de Kaboul. Est-ce que c'est juste pour la rime, ce Dada Cool de Kaboul, ou vous restez toujours de Kaboul ?
Non, je reste toujours de Kaboul parce que je suis né à Kaboul, donc je crois que ça peut pas changer. Et aussi, j'ai vraiment la culture afghane en moi et j'ai envie de l'exprimer. J'ai envie d'être le trait d'union entre la culture afghane et la culture française.
En sol majeur, @rfi.fr.
Et vous pouvez cliquer sur Facebook et sur notre blog desamours.blogs.rfi.fr. Alors sur Facebook, rapidement, j'ai vu qu'il y avait une question de Smadge qu'on a reçue il y a peu. Et il vous dit, Barmak, cousin, explique-nous ce qu'est le Noël des Chartapes.
Ah, le Noël des Chartapes, c'est bientôt. C'est le Noël des étrangers. C'est-à-dire que ça, c'est encore un mot inventé. Et c'est les gens qui s'en foutent complètement de la notion religieuse de Noël, souvent des étrangers, et qui se retrouvent un jour de mois de décembre ou de janvier, peu importe la journée, et font la fête en buvant et en mangeant des ailes de poulet à l'ail, qui est une de mes spécialités que je vous souhaite de connaître, et aussi un dessert qui s'appelle le dessert de l'amour.
Waouh, ouf. Je sais pas si je vais arriver à finir l'émission, moi. Merci Smadge, donc, pour cette question. Merci Barmak Akram. Je rappelle que votre film L'Enfant de Kaboul, sorti en salle il y a quelques mois, coécrit avec Atik,
Oui, alors Raimi,
on n'a pas vraiment le temps d'en dire un mot de plus. Et Jean-Claude Carrière, voilà, est un film disponible en DVD chez Sony. On se quitte en musique.
Oui.
Vous remettez votre casquette de musicien. On va écouter une chanson de Mathieu Chédid, écrite par vous, Psychobug.
Oui, c'est de la même manière que les ordinateurs bug, notre esprit bug quelquefois.
Il faut nettoyer le dossier système, remettre à jour, régler les problèmes. Le geste qui sort, c'est toujours le même, appuyer sur pomme et puis M.
Juliette, Marc Delouvrier, Laurence Nequet, Yasmine Chouaki, on se retrouve lundi autour d'une âme iranienne installée dans la Ville Lumière. Il s'agit de l'écrivain Nahiri Nahapetyan. Bonne journée sur RFI.